بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي toutes les louanges les remerciements reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet de consacrer 25 minutes de notre temps après la salat al-Isha, j'allais dire alors qu'on est en vacances. Mais est-ce que le croyant est vraiment en vacances? Subhanallah. Le croyant peut se reposer, le croyant peut faire une pause, le croyant peut se détendre après une semaine commerciale, après une période d'activité intensive. Mais le croyant, dans sa spiritualité, dans son lien avec Allah Rabbul Izza, ne prend jamais de vacances, parce que le lien avec Allah est un lien permanent. Et ce qu'Allah attend de nous, quand on a rempli les conditions de amalul quloub, d'action intérieure, en termes d'amour d'Allah, crainte d'Allah, confiance en Allah, s'en remettre à lui, ressentir la grandeur d'Allah, le regard d'Allah sur nous en permanence, que tu accomplis les actions mukhlisan lillah avec sincérité, et donc ce qu'Allah attend de nous, c'est l'istiqama, la fermeté, rester ferme dans les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres n'ont pas de limite. La seule limite, c'est quoi? Quelle est la limite des bonnes œuvres? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Quand on meurt, j'allais dire, on est tranquille. Oui, on est tranquille, à partir du moment où on a vécu de l'obéissance d'Allah. Et on est très content d'accueillir un futur Hadji, Anas. Pendant le mois de Ramadan, on avait évoqué ce sujet, le croyant qui meurt. Et Qadr Allah, vendredi, ou la tanié, tafsir de Hatta idha balagatil hulqum. Non, c'était pas ce verset. C'était pas un autre verset, mais qui parle du sakarat. On avait plus ou moins expliqué, repris un peu les points concernant la façon dont le croyant quitte ce monde et les étapes où va l'âme et ainsi de suite. Mais en fait, mes chers frères, c'est vraiment ça l'objectif, c'est préparer ce moment. Et comment parler de ce sujet sans aborder le décès de notre frère Ma'soum, Allah yahfadhu wa yarahamhu wa yaghfir lahu wa yusakkinhu fil jannah, une personne qu'on ne présente plus et qui va nous manquer. Mais Allah a prédestiné min fawqi sab'i samawat, quand cette période, un mois et demi avant son action préférée, hein, le qurbani, l'udhiya, qui faisait vraiment l'essence de cette personne, qui donnait la dimension, hein, à ce personnage. C'est bizarre, hein, de parler de lui au passé comme ça, c'est ajib, hein. Bientôt on parlera de vous au passé, Luqman, enfin pas parce que vous avez la barbe plus blanche que d'autres, hein. Luqman au passé, moi au passé, c'est comme ça, à dunya, c'est ce monde, ça enchaîne, ça passe, il y a des gens, il y a des naissances, Allahu Akbar, il y a des départs et c'est la sunnatullah. Et donc un mois et demi ou deux mois avant l'événement qui l'attendait toute l'année, Allah Rabbul Izzah décide de reprendre son serviteur. On va pas développer, on va pas rappeler les points concernant la mort parce qu'on l'a fait vendredi, on l'a fait pas mal de fois ces derniers temps, mais c'est une réalité et c'est pour ça que nous œuvrons, nous travaillons, nous prions, nous restons éloignés du haram, des péchés. Le comportement incohérent d'un croyant serait de se dire que durant le mois de Ramadan, on parlera que des péchés, hein. Voilà, je me reste éloigné des péchés, je contrôle mon regard, je fais attention à ce que je dis, j'écoute pas de choses pas bonnes et ainsi de suite. Vraiment, j'essaie d'être le croyant modèle où je ne désobéis pas à Allah, d'accord. Mais une fois l'Aïd terminée, je vais me dire Shawwal bien sûr, parce que voilà, ça c'est important. Mais une fois que c'est terminé, voilà, il y a des petites vacances spirituelles. Je lève le pied, comme on dit. Et donc là, je m'autorise certaines choses. C'est un dérapage. Et je décide d'emprunter une pente qui est glissante. Et quand on a mis un pied sur cette pente glissante, shaitan littoral. Le jour où, après le mois de Ramadan, tu as décidé de regarder un instant quelque chose de haram, sache que Shaitan a déjà mis le grappin sur toi. Si tu as cédé une fois au diable, à Shaitan, il est fort probable que tu cèdes une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'il te ramène vers tes vieilles et mauvaises habitudes. Si tu as cédé également à ta fatigue, à ton nefs qui te dit de ne pas te réveiller tahajjud une fois, si tu le rates une fois, c'est difficile de te relever le lendemain. C'est-à-dire que c'est de la fermeté, istiqama, on a grandement besoin. Et dans un monde où vraiment tout nous appelle vers le dunya, vers les plaisirs licites, illicites, le croyant se doit de rester ferme. Et qu'Allah nous accorde cette fermeté, parce que je vais juste finir avec ça en parlant de notre ami Ma'soum. J'ai, comme tout le monde, on a fait salam son fils Ismaïl hier avec beaucoup d'émotion. On a vu toute l'émotion qu'il y avait, hein. Machallah, ce garçon, ce brave garçon. Et il m'a dit, Moïssa, papa l'a parti, en pleurant. J'ai dit non, il n'est pas parti très loin. Il n'est pas parti très loin. Il est parti là où il devait aller, auprès de son Seigneur. Et j'ai dit, tu sais, Ismaïl, tous ces qurbani, udhiya, tous ces sacrifices qu'il faisait, hein, on connaît les hadiths, que ces animaux pèseront de tout leur poids, que pour chaque poids, il y a une récompense. Tu sais, c'est maintenant qu'il commence à goûter le résultat de son engagement spirituel, de tout ce qu'il a fait comme bonnes actions. C'est ça la vie du croyant. On peut être quelqu'un de très, entre guillemets, de très pieux. On fait tahajjud, on fait ishraq, on fait la totale. Je ne vais pas vous dire à chaque fois les mêmes choses. On fait la totale. Mais on vit une vie difficile d'épreuves. C'est une réalité, c'est quelque chose de probable. Et le fait de vivre des difficultés ou d'avoir des épreuves dans sa personne, de sa famille, de ses biens, dans toutes les épreuves que vous connaissez, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. Bil'aks, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à revoir notre vision des choses et réaliser que les bonnes actions, il faut que tu les fais avec sincérité, dévotion, istiqama, jusqu'à la mort. Quoi qu'il t'arrive, même si toute ta vie de bonnes actions est entourée d'épreuves, sache que c'est encore un plus grand signe de qaboul, d'acceptation de la part d'Allah. Quand un hadith, le prophète dit que quand Allah aime une personne, Allah l'éprouve. Ajib, ça. Il y a certains hadiths qui commencent par Man yuridillahu. Je ne vais pas parler des 40 moutons à mémoriser. 40 hadiths qu'on doit chacun connaître par cœur. C'est important pour un croyant. Man yuridillahu bi khayra. On connaît ce hadith qui dit yufaqihu fi din. Allah lui accorde la compréhension de la religion. Ça, c'est un hadith qui est connu. Mais il y en a un hadith qui dit que quand Allah aime une personne, le même accroche, Allah l'éprouve. Ajib. Ma compréhension du dunya, c'est pour être heureux, c'est être en bonne santé, avoir l'argent, avoir l'honneur, avoir la tranquillité, les facilités, c'est voyager, c'est, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous décrire ce qu'est le bonheur, c'est décrit partout. Dans notre dîn, ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il faut revoir sa vision des choses, sa compréhension du dunya. Quand Allah aime une personne, Allah va l'éprouver. Les gens qui n'ont pas la foi, ils te regardent, il est éprouvé, miskin, il a des épreuves. Mais c'est comme ça qu'Allah est en train de t'élever. Donc, on clôture cette introduction en faisant tous doigt pour qu'Allah Rabbul Izza illumine sa tombe. Hier soir, il a passé sa première nuit dans la tombe. Je crois que c'est Saïd ibn Musayyib ou un tabi'in qui avait dit, je n'ai pas son nom, à chaque fois je dis je vais chercher, mais je ne cherche pas. Mais comme ce n'est pas un hadith, il n'a pas forcément besoin d'avoir le nom exact. Il dit que la nuit la plus terrible, la plus éprouvante, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, la nuit la plus terrible et la plus éprouvante qu'un être humain puisse connaître et vivre, c'est la première nuit seule dans la tombe. Parce qu'il faut être conscient que quand on enterre une personne, la personne est parfaitement consciente. Ce n'est pas un cadavre. En français, on va dire que c'est un cadavre, un corps inerte. Dans, on va dire, dans la compréhension purement scientifique, un cœur qui ne bat plus, c'est un cœur qui n'a plus d'émotion, qui ne ressent plus rien. Dans notre dîn, non. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tout tourne autour du ruh. Et le ruh ne disparaît pas, lui. Hein? L'âme, c'est quelque chose qui reste. Tu meurs, l'âme se déplace. L'âme quitte ton corps. L'âme monte aux cieux et l'âme redescend de la tombe pour aller, Anas, pour aller, les questions des anges. Hada. Donc, quand on place un mayet dans un qabr, dans une tombe, on est conscient qu'il sait exactement ce qui se passe. Il entend, il est totalement conscient. C'est-à-dire que là, quand il est dans sa tombe, c'est que l'âme est déjà montée aux cieux et l'âme est déjà revenue parce que les questions, ça va être dans quelques instants. Et donc, comme ce tabi'in disait, la nuit la plus terrible, c'est la première nuit que tu passes seul dans ta tombe. Ou bien sûr, il n'y a personne, d'accord, on est d'accord. Même si vous aimez, même si quelqu'un était très amoureux de sa femme, ou quelqu'un aimait son père, tu aimes beaucoup ton père, il est là, il faut dire, dis, papa, je t'aime. Allah, 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 Allah. Qu'Allah vous réunisse dans le Jannah. On a des émissions, on fait des retrouvailles entre des familles. même si un fils aime son père, aucun être humain ne souhaiterait passer une nuit dans la tombe avec un mort. C'est comme ça. C'est la réalité. Même si on met la lumière, on met la clim, on met un petit parfum d'ambiance, et voilà, chérie. Le monde des vivants ne se mélange pas avec le monde des morts. Donc la nuit la plus terrible, je reprends et je clôture, et puis peut-être qu'on commencera le programme, c'est la première nuit qu'un être humain passe dans sa tombe, où il est parfaitement conscient. Mais vous savez, cette nuit, dans la tombe, en plus on l'a enterré après Maghrib. Qui peut me dire à quelle heure les anges sont venus lui poser des questions? Bilal, t'avais pas un GPS? T'avais pas un Wi-Fi tombe? Non?
Minuit.
Hein?
Minuit.
Pourquoi minuit? Alors, arrive dans le film d'horreur ou à peau dit n'importe quoi. Quelques instants après que les dernières personnes sont parties. Qui c'est qui reste en général sur la tombe? La c'est son fils et les proches. Et Dieu seul sait combien il avait de proches et d'amis. Parenthèse, j'ai jamais vu. Enfin, depuis, je ne prends pas des noms en temps normal, mais depuis Marhoum Issa Bravat, j'ai pas vu. Et ça, c'est un grand signe. Hein. C'est un grand signe du muhabba, l'attachement que les gens avaient pour lui. Qui c'est qui est resté? C'est sa famille, ses proches. Et puis là aussi, on peut aimer quelqu'un, subhanallah, on peut lui être reconnaissant, c'est mon père, mon grand-père, mon épouse, mon fils, ma fille. Mais à un moment donné, le monde des vivants rejoint le monde des vivants. Personne ne reste devant une tombe toute la nuit ou deux jours. Abadan. Quand les dernières personnes s'éloignent, c'est là que les anges viennent. On a déjà cité le hadith, on ne va pas le citer encore. Là, les anges viennent, font asseoir le défunt. Comment s'asseoir dans une tombe? Ça, c'est dans le monde de l'invisible. On passe dans l'autre monde, dans le monde du Ghaib. Sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Le défunt s'assoit et là les anges posent des questions qu'on connaît et le défunt a l'agrément d'Allah Rabbul Izzah pour ses réponses. Donc je clôture en disant qu'Allah Azza wa Jal à cet instant illumine sa tombe. Vous savez que le défunt, la personne qui est décédée, le croyant, après avoir répondu correctement aux questions, là on ne fait que répéter, mais c'est profitable, rappel profitable. Allah Rabbul Izzah permet à la personne de voir la place qui est la sienne dans le Jannah. Et c'est un grand, grand motif de satisfaction, de joie. Et Allah lui montre également la place qui aurait pu être la sienne s'il avait été dans le péché, le haram, s'il était mort dans la désobéissance. Et là, il remercie Allah qui l'a guidé vers le droit chemin. Je pense que ce genre de hadith, j'ai dit ce petit hadith, hein, c'est pas péjoratif, mais ce genre de description qui est connue, des hadiths connus, ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Et de bien réfléchir avant de prendre des décisions, avant de faire des choix. Quand le péché était accessible, t'as envie de faire ce haram, réalise et réfléchis juste quelle vision tu voudrais avoir dans la tombe. Et là, ça te permet de comprendre est-ce que ça valait la peine. Sifatul kifaya wa in sa'alta an kifayatihi fa huwa subhanahu wa ta'ala al-kafi 'ibadahu jami'a ma yahtajuna wa yat يضطرون إليه رزقا ومعاشا وقوتا وحفظا ونصرا وعزا. C'est long. Le nom d'Allah que nous allons voir ce soir, c'est Al-Kafi. Et le nom Al-Kafi vient souvent après Ash-Shaf. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser ces deux noms ensemble. En fait, le choix des noms, c'est souvent, on suit un certain ordre d'idées. Qu'est-ce que nous recherchons à travers l'étude de ce nom d'Allah, Al-Kafi? C'est certainement un des noms d'Allah qui nous permet de grandir et de parfaire notre tawakkul, notre confiance en lui. Tout comme qu'on avait vu Al-Shafi, Allah qui donne la santé, ça te permet de comprendre et de réaliser que la santé est dans les mains d'Allah. Avec ou sans intermédiaire, Allah est capable de te donner la santé. Avec des intermédiaires, Allah peut décider de ne pas te donner la santé, même si tu as les meilleurs chirurgiens, et ainsi de suite. Placer sa confiance en Allah. Le nom d'Allah qu'on avait étudié juste avant, si je ne me trompe pas, c'était Ar-Razzaq, non? Certainement. Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Ça aussi, ça te permet de placer ta confiance en lui. D'accord? Ben en fait, là, si on analyse l'étude des noms d'Allah, il y a toujours, c'est un tronc commun, ça, c'est un des objectifs essentiels. A'mal al-Qulub. Que le cœur se lie à son Seigneur, Azza wa Jal. Apprendre à connaître Allah apprendre à faire naître dans notre cœur la grandeur d'Allah. Parce que, comme on le dit tout le temps, chaque fois qu'on commence l'étude d'un des noms d'Allah, on a ce croyant qui prie, qui fait tout, tout ce qu'on sait. Mais son cœur n'est malheureusement pas habité par l'amour et la crainte d'Allah, ni même par ta'zimullah. La grandeur d'Allah n'est pas entrée dans son cœur. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il fait des péchés, non. Au contraire, il fait pas de péchés, ainsi de suite. C'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'étudier. Et il est essentiel pour un croyant de connaître Allah. C'est quoi le credo, tout ce qu'on dit, ce qu'on dit tout le temps ? Connaître Allah pour mieux l'adorer. Connaître Allah pour ne plus le désobéir. Connaître Allah pour faire dua correctement, avec conviction, présence de cœur, engagement et confiance totale en lui, Azza wa Jal. Et parmi donc l'étude de tous les noms d'Allah, c'est de faire naître cette action qui est une action intérieure, min a'mal al-qulub, at-tawakkul, la confiance totale en notre Seigneur Azza wa Jal. Et ça, mes chers frères, c'est la clé. Parce que avoir confiance en Allah, c'est la clé pour développer ce qu'on appelle le husnul dhanni, la pensée positive en notre Seigneur Azza wa Jal. Donc, ce qu'on a lu en introduction, en fait, on peut se suffire juste de ces trois lignes, hein, de ce que l'auteur a cité. On ne va pas être plus long que ça. Wa in sa'alta 'an kifayatihi. Si tu te demandes à quel point Allah peut te suffire, sache que c'est lui, Allah, le Très-Haut, Al-Bari Azza wa Jal, Al-Kafi 'ibadahu, c'est celui qui suffit à ses serviteurs concernant tout ce dont ils ont besoin. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Masha'Allah. Tout ce dont ils ont besoin. Rizqan wa ma'ashan wa qutan. Et tout ce qu'on a dit, on ne va pas répéter. Allah est capable de donner à son serviteur ce qui lui est nécessaire en termes de rizq. Et donc, développer Al-Kafi nous permet de renforcer la conviction sur que Allah est Ar-Razzaq. Wa ma'ashan, tout ce qui était nécessaire pour vivre, wa qutan, ce sont des synonymes, hein, tout ce qui est nécessaire pour vivre correctement, d'accord? Wa hifdhan, Allah te suffit comme protecteur, d'accord? Wa nasran, Allah te suffit comme celui qui va t'aider dans toutes les situations de la vie, situation simple ou situation complexe, t'aider face à un ennemi, t'aider également dans les difficultés, dans les épreuves. Allah, c'est celui qui peut t'aider, Nasran, dans une situation de maladie, problème de santé, où c'est Allah qui donne la santé. Et on verra dans un dernier hadith, celui qui peut t'aider également quand tu es endetté. C'est un beau hadith que l'auteur a cité, le doigt que le prophète faisait, a enseigné pour celui qui a des dettes. Naam. Wa izzan, Allah te suffit pour t'accorder ton izza. C'est quoi le izza? L'honneur. Mais pas l'honneur, enfin c'est un mot en français, c'est pas l'honneur à la fierté, c'est que tu n'aies besoin d'aucune créature. Ça, il n'y a rien qui peut remplir une personne comme cette garantie qu'Allah te donne, que tu n'as besoin que de lui. C'est pas non plus être celui qui est autonome, dans le genre anarchiste, j'ai besoin de personne, je coupe les liens. Non, 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 on parle pas de ça. On parle de la personne qui n'aura jamais besoin de tendre la main, qui n'aura jamais besoin de solliciter les gens. La personne qui n'a besoin que de son Seigneur Azza wa Jal, et que son Seigneur le suffit amplement. Ça, c'est une richesse exceptionnelle. Exceptionnelle. Naam. Donc ça, c'est le côté Allah te suffit, peut te donner tout ça. Et le tout, c'était quelques points. Ad-dafi'u anhum kullama yakrahun. Et ça, il n'a pas cité de détails. Al-Kafi, c'est celui également qui te suffit pour te protéger contre eux, contre tout ce qui peut être nuisible et mauvais. Des choses que tu connais, mais également des choses que tu ne connais pas. Et des fois, tu demandes protection contre un ennemi qui est connu, mais c'est peut-être ton ami qui est plus dangereux, qui peut essayer de te faire du mal. Donc, celui qui place sa confiance en Allah, quand on dit, on ne va pas voir ce verset ce soir, « Alaysa Allahu bikafin » Abda, on verra ce tafsir de la sourate Az-Zumar. Alayhi Allahu bikafin abda, c'est celui qui te protège contre tout ce qui peut te causer des problèmes, des choses que tu connais, mais également le mal que tu ne connais pas. Naam. Et le troisième point, walladhi yuktafa bima'unatihi amman siwa, c'est ce Khaliq, ce Seigneur, qui lorsque tu places ta confiance en lui et qu'il te garantit qu'il va te suffire contre tout ça, amman siwa, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de strictement personne. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers l'étude de ce nom d'Allah, Al-Kifaya. Et donc, l'auteur n'a pas cité beaucoup de hadiths ou de versets du Coran, que deux. Et hadith en a cité deux également. Et, mais il y a beaucoup de très belles citations que nous allons lire au fur et à mesure. Parce que voilà, c'est tellement beau qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Il l'a dit de façon éloquente et magnifique. Et c'est vraiment, j'ai rarement vu un texte qui décrit aussi bien le tawakkul, la confiance que le croyant doit avoir en Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la pause ce soir, Inch'Allah. Qu'Allah Rabbul Izza dans sa clémence. On a 21 minutes. Ah, on peut se permettre un hadith. Un hadith. Quel est le hadith vraiment qui illustre la confiance que le croyant doit placer en Allah? J'attendais que le cher cite ce hadith, mais il a cité un autre hadith. Oui, Allah ybarik fik. Le cheikh Hassan al-Hadi, vous connaissez l'histoire de, ça s'est passé dans les Aqwam avant nous, cette personne, un jeune homme que les ennemis avaient capturé, ils voulaient qu'il abandonne sa religion et on l'a amené au sommet d'une montagne et pour le jeter et ainsi de suite. Et à chaque fois, il plaçait sa confiance en Allah et il faisait un doua. Si je retrouve le texte du hadith, je ne le vois pas immédiatement, où à chaque fois, il faisait un doua en rapport avec le fait qu'Allah le suffit. D'accord? Et quand il était sur la montagne, il y a eu un tremblement de terre, et Allah l'a protégé, et ainsi de suite, quand on voulait le jeter dessus bord d'un bateau, et le bateau s'est retourné, ainsi de suite, il a été sauvé à chaque fois, parce qu'il plaçait sa confiance en Allah. Donc ça, c'est un hadith que le cheikh a cité. Cependant, je prends toujours des précautions quand je raconte ce genre d'histoire. C'est sahih, hein. C'est dans, je crois, Tirmidhi ibn Majah, c'est authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Cependant, là où il faut un peu plus de finesse quand on cite ce genre d'histoire, c'est qu'on fait comprendre aux gens que quand tu places ta confiance en Allah, Allah te protégera toujours. Mais il arrive aussi des fois où tu places ta confiance en Allah, tu fais les bonnes actions, tu fais tout, mais tu chutes quand même. Et cette réalité-là, on a besoin quand même de la citer. Parce que si quelqu'un réunit les conditions de foi et place sa confiance en Allah, et il se rend compte que malgré ça, il est tombé dans le problème contre lequel il a demandé doigt, sabahan wa masa, du premier ramadan jusqu'au dernier ramadan, il demande des protections contre tel problème, telle maladie, telle épreuve, et qu'en finalité, Allah l'éprouve par cette difficulté. Il ne faut surtout pas que son lien avec Allah soit ébranlé ou remis en cause. Il ne faut surtout pas que la personne remette en question la qualité de ses doigts, et pire encore, le hijab, l'acceptation de la part d'Allah. Vous voyez, en fait, ce genre d'histoire, c'est très beau, c'est magnifique, mais il faut bien l'expliquer. Il faut expliquer également les contre-exemples. Parce que le contre-exemple, on a Ashabul Ukhdud. Pour ceux qui sont réguliers au programme, on cite souvent cet exemple, des croyants, des hommes âgés, des femmes, des enfants, même des bébés, on les a jetés dans un fossé. On les a brûlés vifs. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud, les gens s'asseyaient, ils étaient عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, ils regardaient, ils se contentaient de ce spectacle. Si Allah nous cite ce verset, cette histoire, c'est pour qu'on réalise que des fois tu peux avoir iman et a'mal et avoir une vie parfaite, mais l'épreuve te touche quand même. Et la vie du prophète alayhi salat wa salam et la vie des anbiya, des prophètes de façon globale et générale, est une preuve vivante que les hommes les plus pieux, malgré leur piété et tout ça, leur confiance en Allah, Allah leur envoyait des épreuves pour qu'on arrive à relativiser. Fais de ton mieux et sache que si ça te touche, c'est pas qu'Allah ne te suffisait pas, non. C'est qu'Allah a décidé que l'épreuve te touche, li hikmah, pour une sagesse qui est connue que de lui, Azza wa Jal. Et donc voilà, ça c'est l'exemple que le cheikh a cité. Et nous, ce qu'on citera, c'est justement le hadith ibn Abbas, où le prophète alayhi salat wa sallam a dit: wa'alam anna dunya law ijtama'at ala an yadurruk, lan yadurruk illa bi shay'in, il a akhir le hadith, sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal, ils ne te feront rien de plus que ce qui est écrit dans ton destin. Et sache si l'humanité se réunissait pour t'aider, te supporter, t'apporter leur aide financière, soutien, peu importe, ils ne t'apporteraient rien de plus que ce qu'Allah écrit dans ton destin. C'est-à-dire, si Allah a décidé que tu n'obtiennes pas la santé ou son aide ou autre chose, tu peux avoir de ton côté qui tu veux, c'est Allah qui prend les décisions. C'est vraiment le, et pourquoi ce hadith, à mon humble avis, il est tellement important, c'est parce que le prophète alayhi salat wa salam l'a enseigné à un Anas, à un enfant. Ibn Abbas était un enfant assis auprès du prophète alayhi salat wa salam. C'est pour qu'on réalise également que ça fait partie de l'enseignement de base, la formation du iman de l'enfant, que lui apprendre que tu dois placer ta confiance en Allah. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance au tahara, à la salah, au istinja pour les enfants. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça, ce sont les a'mal, les actions. Comment prier, comment se purifier, comment faire les ablutions, ainsi de suite. Mais il faut que l'enfant ait une préparation spirituelle aussi. Qu'il donne un sens à sa prosternation, à sa lecture du Coran, et qu'il comprenne que sa vie est vouée à Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous donne la hidayah, le tawfiq de comprendre ces paroles essentielles, que ça pénètre nos cœurs, et qu'Allah nous permette de transmettre à nos proches. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.